Sanhedrin Tzadik Hei Amud Bet, à la neuvième ligne de la Gemara. Bamé Hikam, avec quoi il les a frappés? On est toujours dans notre histoire de Sanhérif, que le Malach il est venu, il a détruit toute l'armée de Sanhérif. On avait vu 185 000 chefs d'armée, après encore des fantassins à l'infini. Alors le texte dit, il est sorti l'ange de Dieu, et les a frappés, ils sont tous devenus des cadavres. La Gemara nous dit, Bamé Hikam, comment il les a frappés? Et vous avez le texte devant vous. Bamé Hikam, comment il les a frappés? Rabbi Eliezer Omer Beyad Hikam, avec la main, il les a frappés. Le Malach les a frappés avec la main. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire la main. C'est des allusions. C'est des expressions prophétiques. On explique les anges, la façon, la manière, comment Akadosh Baruch Hu, il envoie les anges pour agir ici dans ce monde. Alors, tout ça, c'est un langage codé que je ne sais pas décoder. Je lis la Gemara telle qu'elle est écrite, sans être capable de décoder, et toute la suite de la Gemara pendant un amoud, je ne sais pas décoder. Archicodé, je lis telle qu'elle est marquée. Et ça fait allusion à d'autres choses. Plus tard, il arrive des gemarotes qu'on peut mieux comprendre, qui sont pas choutes. Mais il y a un passage ici que des allusions. Alors, Bamé Hikam, avec quoi il les a frappés? Rabbi Eliezer Omer Beyad Hikam avec la main. Je n'aime pas comme le texte, il dit, Bayar Israël et Tayyad Hagedola. Les Juifs, quand il avait Tiet Mitzrayim, quand il avait créé Yam Souf, quand il a noyé les Égyptiens dans la mer, le texte dit, les Juifs, ils ont vu et Hayad Hagedola, la grande main de Hachem. Alors, la Gemara nous dit, le mot Yad Hagedola, la grande main de Kriyat Yam Souf, c'est Hayad Shatida Lipara Misancherif. C'est la même main que dans le futur, elle va punir Sancherif. La noyade de l'armée égyptienne et la destruction de l'armée de Sanhérif, ils sont mis ici ensemble et la manière comment Akadosh Baruch Hu il a détruit cette armée et le Malach qui a détruit l'armée de Sanhérif était la même manière qu'Hachem il a fait Kriyat Yam Souf. Et pour Kriyat Yam Souf, le texte dit Hayad HaGedola, la grande main, c'est une expression kabbalistique, qu'est-ce que c'est la main d'Hachem? Et la même chose, Sancher et Vaparo, c'est de la même façon. Comme ça, Rabbi Lezer, il dit, Rabbi Shua mer be'etz bahikam, c'est avec le doigt il les a frappés. Je n'ai marre, on voit cette expression, voyomu à Khartoumim, et les magiciens en Égypte ont dit, El Paro etz ba elokim hu. C'est le doigt de Dieu, ce doigt de Dieu avec lequel Akadéboch il a fait le kinim. Etzba Elekim, c'est après l'époux. Ou Etzba Shatida Lipara Mesancherif. Il y a une liaison entre la fabrication des poux, le troisième coup, avec l'époux qui s'appelle le doigt de Dieu, et Sancherif, la destruction de Sancherif. Ce doigt, c'est la même chose. Vous me demandez quelle différence entre une main et un doigt, je ne sais pas. Peut-être la main, elle est plus forte que le doigt. Mais de l'autre côté, le doigt, il est plus précis que la main. L'époux, c'est une maca plus précis. Et chez Sancherif, il y avait une espèce de précision là-bas, mais je ne sais pas. Ce sont des notions qu'il faut analyser, le doigt, la main, etc. Rabbi Eliezer, Bno Shel Rabbi Yossi Glil Yomer, Amarlo Akadosh Baruch Hu le Gabriel. Akadosh Baruch Hu lui dit à l'ange Gabriel, Maglecha Netusha, est-ce que ton épée et bien aiguisé. Alors Gabriel, c'est un malach que sa fonction normalement c'est la chaleur. Gabriel, c'est Midat Hadin et il crée la chaleur. La chaleur en été, c'est chaud, ça fait pousser les fruits, ça fait mûrir les fruits. C'est le malach Gabriel qui amène cette chaleur. Cette chaleur pourrait être aussi destructive. Elle peut aussi aider. Et Akadesh Baruch Hu lui dit à Gabriel, Maglecha Netusha, est-ce que Magal, normalement Magal, ça veut dire c'est pour couper le blé. Magal, c'est pour couper le blé quand les fruits, quand les céréales sont mûres. Est-ce que c'est bien aiguisé? Akadesh Baruch Hu lui demande. Parce que je veux utiliser ma manière de couper le blé, de faire mûrir le blé, couper le blé, je voudrais l'utiliser maintenant pour donner un coup mortel à l'armée de Sanhérif. Est-ce que tout est prêt? Dieu, il demande à Gabriel, est-ce que tout est prêt? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin de demander à Gabriel des questions? Hachem ne le sait pas. Mais ça existe, c'est une façon de parler comme quelqu'un. Il connaît bien l'autre, mais il voudrait le mettre au courant qu'il va bientôt l'utiliser. Je téléphone à mon ami, j'ai besoin qu'il me prête la voiture. Et je lui téléphone, ta voiture, elle est en bon état, elle est bien prête, parce que j'ai bientôt besoin d'un service. Amar le fanav ribon et shololam. Alors, le malach Gabriel, il le dit, maître du monde, nous tout ça, vous m'aidez, mes chèches et mes bréchites. Mon épée, mon magal, ma faucille, ne touche à Vomed et Mnichesh et Tumébréchit. Elle est prête depuis les 6 jours de la création. Ça veut dire depuis les 6 jours de la création, c'est dans le projet du monde, les grandes points de repère de l'histoire du monde étaient fixés pendant les 6 jours de la création. Donc, la destruction de Mitzrayim dans la mer, ou la destruction de l'armée de Sanhérif, dont l'hypothèse où ils vont être en méchant, bien sûr, les gens, ils ont la prira, ils peuvent être gentils ou méchants, dont l'hypothèse où ils vont être en méchant, dont l'hypothèse où ils vont se trouver dans cette situation qui mérite la destruction, dans ce cas-là, l'intervention céleste a été déjà fixée depuis Briat HaOlam. Ça s'est marqué dans la Gemara au sujet de Kriyat Yam Souf spécialement. Le texte il dit Vayashev Hayam Likrot Boker le Eitanu. Et la mer est retournée vers le matin, le Eitanu, vers sa puissance. Elle s'est jetée sur les Égyptiens. Sur ça, la Gemara nous dit que le mot le Eitanu veut dire Litenao. Vers sa condition. C'est-à-dire quoi, vers sa condition? Adagman nous dit quelque chose de très important. Le Rambam de Moreh Nevuchim, il met beaucoup l'accent sur ce passage de la Gemara parce que c'est quelque chose de très important. La Gemara nous dit Tnai hitna kadesh boch ou maase bereshit. Quand kadesh boch, il a fait maase bereshit, il a créé et il a fixé les règles du jeu. C'est quoi, ça veut dire, les règles du jeu? La nature, les règles de la nature. Par exemple, une règle de la nature, c'est que quand tu prends une pomme, tu la lâches, elle tombe par terre. Ça s'appelle l'attraction terrestre. C'est une règle de la nature. L'eau, elle tombe d'en haut vers le bas. L'eau ne va pas du bas vers le haut, c'est le haut vers le bas, comme toutes les choses. Maintenant, quand il y avait Kriyat Yam Souf, l'eau se dressait, sont devenus deux murs. Et les Juifs, ils pouvaient passer dans la terre sèche. C'est un miracle. La Gemara nous dit, ce miracle, ce changement de la nature, a été créé pendant la création du monde. Pendant les 6 jours de la création, le Yesod, il est que en kol chadash tachat hashamesh. Il n'y a pas de nouveau sous le ciel. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de nouveau sous le ciel? Dieu ne crée pas une nouvelle nature. Il a créé la nature pendant les 6 jours du monde. Il ne change pas, mais il change lui. Kriyat Yam Souf, c'est un changement. Or, ce changement a été gravé dans le programme d'Hachem, c'est-à-dire l'ordinateur d'Hachem, où il a mis au monde les règles du jeu, comment le monde fonctionne. Entre autres, il y a une attraction terrestre. Hachem, il a inscrit dans ce logiciel que le fameux jour que les Juifs vont passer la mer, ils doivent passer la mer, ce jour-là, l'eau va monter. Elle ne va pas descendre, elle va monter, elle va devenir un mur. Ce miracle était inscrit en théorie déjà. Et après, ça s'est réalisé. Quand le matin, l'eau est retombée en bas, elle est redevenue à sa nature normale. Ça aussi, revenir à la nature normale, c'était aussi inscrit. C'est-à-dire, comme si Akadosh Baruch Hu lui dit, pour quelques heures pendant cette fameuse nuit, je change les règles de la nature. Pas seulement pour la Yam Souf, pour le monde entier. La Gemara nous raconte, tous les eaux du monde entier, ils se sont coupés en deux. Un homme, il avait une bouteille de l'eau, et ben, pendant que la Yam Souf, claque, la moitié de l'eau à gauche, la moitié de l'eau à droite, et au milieu, c'était sèche. Ainsi, le monde entier, tous les lacs, tous les fleuves, tous, était au milieu sèche. Et le monde entier s'est aperçu ce miracle pendant cette nuit. Comme ça, plus tard, les gens ils ont demandé, juste qu'ils ont entendu l'histoire des chrétiens, bien sûr. En tout cas, l'Yesod, il est que la condition a été décrite, Yamsouf a été posée, balisée déjà pendant les 6 jours de création du monde. Donc, ça dirait ici que même la destruction de l'armée de Sanhérib aussi. C'est ça le sens de la Gemara. Quand je vous demande à Gabriel, Maglechan et Toucha, ton épée est bien aiguisée, tu es prêt à intervenir. Amana, fana, ribon, shelolam, nu Toucha, le omedet, mishéchit, imébrichit. Tout est préparé depuis les 6 jours de création, shenem, ibn Charavot, Nadad. Tout justement, je suis prêt, il n'y a pas de problème. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, auto apéré, l'époque de l'année que Sanhérib est venu, Zman Bishul Perotaya. C'était un moment où les fruits devenus mûrs, le céréal devenu mûr. Quand toi, tu sors, tu te promènes au monde pour faire mûrir les fruits. Comment il fait mûrir les fruits? Avec du soleil. Donc, le chef du soleil aussi, ce qui crée la chaleur au soleil, qui en rayonne le soleil et qui donne le soleil au monde, ça, il y a la Malach Gavril derrière. Shata Yotse Levashel Perot. Quand toi, tu vas sortir pour faire mûrir les fruits avec ta chaleur, Isaac Eklehem, occupe-toi aussi de cette histoire de ce Sanhérib. Je veux qu'au même moment, je ne vais pas t'envoyer directement du ciel que pour détruire Sanhérib, mais de toute façon, tu es obligé de chauffer, c'est la saison qui doit chauffer le monde, alors en passant, tu fais ça. Neymar, comme il marquait le texte, Midei Ovro, Yikach Etrem. En passant, il va vous prendre. Ça veut dire quoi? Bon. Ça veut dire, il y a des choses qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas, il y a des missions qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas le malach spécialement pour ça. Mais un malach qui a déjà une autre mission que de toutes ces envoyées, en passant, il fait ça aussi. Ça veut dire quoi? Que le malach Gabriel, sa mission principale, c'est d'apporter du beau temps avec de la chaleur pour mûrir les fruits. Mais massacrer l'armée de Sanhérib, c'est quelque chose d'exceptionnel. Akadosh n'aime pas envoyer un malach pour des choses exceptionnelles. Mais tu fais déjà ça, alors tu fais l'autre chose aussi. Alors c'est possible que. Pourquoi le malheur Gabriel? Parce que le texte, il dit, ils étaient tous brûlés. On avait déjà vu, il y a Machloket, si le corps était brûlé ou que la neshama était brûlée. Donc, c'était une décharge électricité, à la foudre, je ne sais pas comment. Une décharge électrique, une immense chaleur. La chaleur de chauffer les fruits, c'est une chaleur que le malheur Gabriel amène. Et aussi, c'est possible que cette foudre-là qui est tombée sur l'armée, c'est aussi du malheur Gabriel. Mais c'est derrière Agaf, c'est en passant il a fait ça. Hachem n'a pas envoyé le malheur Gabriel que pour ça. En quoi c'était important à savoir? Hein? En quoi c'est important à savoir que c'était en passant il a fait ça? C'est peut-être une espèce de mépris pour Sanhérib. Ne crois pas, toi Sanhérib, tu es si important que je vais envoyer un malheur du ciel pour toi. Non, 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 tu es un nul, toi, comme tu es. Mais de toute façon, ma malach, il fait des choses, des belles choses, quoi. Faire mûrir des fruits, c'est quelque chose de positif. Il travaille positif. Les punitions pour les méchants, Hachem n'aime pas les faire. Il les fait comme ça, bon, tic-tac. Mais ce n'est pas ça qui intéresse beaucoup Hachem. Amarav papa. Ça correspond au proverbe que les gens disent. Agav urcher, en passant de toute façon ton chemin, tu passes de toute façon ton chemin, leval devavach ishtama, fais-toi montrer à ton ennemi pour lui faire peur. Il y a un proverbe qui dit, un homme qui veut faire peur à son ennemi, c'est pas bien qu'il va chez l'ennemi et il lui fait peur. Il passe sa route pour son chemin et en passant, il fait un avertissement à l'ennemi. Peut-être le sens, il est pour pas chercher à provoquer l'ennemi, pour pas que l'ennemi pense qu'il est trop important. Quand on cible un ennemi directement pour l'abattre, on lui donne de l'importance. Et le fait qu'on lui donne de l'importance, ça l'excite. Et ça lui donne des ailes, ça lui donne de la force. Mais il ne faut pas rêver à la force de l'ennemi. Tu ne mérites même pas que je passe là-bas. Mais bon, moi, je suis obligé de passer là-bas pour faire mon travail. En passant, je prends mon revolver, jette un coup d'œil sur l'autre pour lui dire, tu sais, si tu veux, je peux te liquider. Mais en passant, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour autre chose. C'est pour surtout pas donner de l'importance aux forces du mal. Il ne faut pas galvaniser les forces du mal. Il ne faut pas trop s'occuper des forces du mal. Ça leur donne de la force. Il ne faut pas parler trop d'un rachat, c'est un yesod. Il ne faut pas parler du rachat. Raphaël, qui avait la coutume de dire, il ne faut pas prononcer le mot de rachat. Il ne faut pas parler de lui. Quand on parle chas shalom, c'est... Il ne faut pas parler autour du mal, il faut du bien. On fait du bien, et c'est en passant. Il ne faut pas faire de l'ennemi une grande chose. Alors, Vieh Shomrim, il y en a qui disent Bechotman Nashaf Bahen Vametu. C'est dans leur narine, Nashaf Bahen, il a soufflé Vametu. Ça veut dire le soufflet, quand il y a une explosion. Il y a un souffle fort, il brise les verres. Et ça peut être aussi mortel. Un souffle d'une explosion peut être mortel. Alors, ici, le malach, il a soufflé. Le souffle Nashav Bahen, Bechotman, c'est rentré dans leur narine de cette armée, des soldats. Va mettre comme ça, ils sont morts. Je n'ai pas, car le texte, il dit là-bas, Vegam Nashav Bahem Vayivashu. Rabbi Yirmiya Baraba Amar, donc on a combien de Zandama? Un, il dit c'était avec la main. L'autre, il dit c'était avec le doigt. Et l'autre, il dit c'était un souffle. Alors, Rabbi Yirmiya Baraba Amar, Kapayim Sapak Lahem Vametu. Il a frappé aux mains. C'est-à-dire, un homme comme ça, la main droite sur la main gauche. Le malach, il a frappé la main, ou metu. Et de ça, ils sont morts. Neymar le texte dit Gamani ake kapi, el kapi va nichoti chamati. Je frapperai une main sur l'autre et je me calmerai. Qu'est-ce que c'est cette symbolique de frapper la main sur la main? Bon, dans le marcha, il y a toute une histoire, la main droite, la main gauche, une c'est la main chesed, la main droite c'est midata chesed, la main gauche c'est midata din. Il frappe la midata din sur la midata chesed et ça crée un bruit et c'est ça qu'ils ont mouru. Bon, tout ça c'est codé. Rabbi Yitzhak Nafre Amar Oznayim Gila Lahem. Il leur a ouvert les yeux, les oreilles. Veshamu Shira. Ils ont entendu le chanson des anges qui chantent la gloire de Dieu. Et puis Chayot des anges va mettre tout. Et de ça, ils sont morts. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous raconte ici? C'est bouleversant ce que la Gemara nous dit. C'est que en vérité, il y a des anges au ciel qui chantent la gloire d'Hachem. Et c'est une musique de merveille, de merveille. Et les Rechaïm dans ce monde, ils n'entendent pas cette musique. Alors, ils sont méchants. Alors, ils se lèvent contre Hachem. Vous le risquez, vous le détruisez le Beth Amikdash. Risquez sans faire, et puis vous voulez monter au ciel, détruire le Beth Amikdash au ciel aussi. Alors, il faut les liquider. Comment il les a liquidés? Il leur a ouvert les oreilles. Ça veut dire quoi? Il leur a mis un truc dans l'oreille, comme aujourd'hui, comment on appelle ça, les oreillettes. Et il leur a fait entendre en quelques secondes la musique céleste. Ils ont entendu comment des myriades des anges chantent la gloire d'Hachem. Et ils ont fait une crise cardiaque. Pourquoi ils ont fait une crise cardiaque? soit de honte. Ils ont vu qu'ils sont complètement à côté de la plaque, mais on est des fous. On parle contre Dieu, mais ce qu'on contre Dieu, on a cru qu'on est des costauds. On peut résister à la volonté de Dieu, mais il y en a mille millions de fois des gens plus forts que nous, pas des gens, des anges plus forts que nous. C'est tellement évident. La gloire de Dieu en chante et nous sommes aux antipodes de ce chanson. Eh bien, ça leur a fait une crise cardiaque, ils sont morts. Va, mais tout. Cinéma, comme le texte, il dit, Mikol Hamon, nadedu amim, miromemutecha, naftsugoim. De ta puissance, de ta hauteur, les goïms sont morts. Sûrement, ce sera aussi l'Atid Lavo. La Gmano raconte l'Atid Lavo, on dirait le Yom Adin, à Kadesh Baruch Hu, il fait sortir le soleil de son écran. Et les tzadikim, ils vont guérir. Et les rechaim, ils vont souffrir. Et le Stipler, il explique que le sens de la Gemara est comme ça. Le soleil veut dire la clarté. La clarté de la vérité va se dévoiler. Et ça, cette vérité va guérir les tzadikim. Ça veut dire toute la souffrance qu'ils avaient pour lutter pour la vérité, ils vont voir la confirmation de tout ce qu'ils ont lutté. Donc, ça va les guérir, ça va les renforcer. Et les Rechaim qui luttaient contre cette vérité, ils vont être aussi éblouis par la vérité et ça va leur faire souffrir. Pourquoi souffrir? Parce qu'eux, ils étaient justement en bataille, ils ont bataillé contre cette vérité. Quand la vérité éclate, ils vont être pleins de honte. Ils ont lutté contre la vérité. Comme ça, parce que le Stipler lui demande où le soleil guérit, où il fait souffrir, comment c'est la même chose. Il dit oui, la vérité qui éclate, elle aide, elle est agréable pour ceux qui étaient dans le bon chemin, et c'est désagréable ceux qui étaient dans le mauvais chemin. Le Kama Minishtayer Mehem, combien des gens ont survécu de la catastrophe de Sennacherib? Rav Amar Asara. 10 personnes. D'où ont ces 10 personnes? Chez Neymar, le texte, il dit, Ushaar etz ya'aro mispar yu venar ichtevem. Ce qui reste, eh bien, on peut les compter, venar ichtevem. Même un petit gamin, il peut les compter. Venar ichtevem. Kamanar yachol ichtov asara. Ça veut dire Nahar. Qu'est-ce que veut dire Nahar? Un petit gamin de 2 ans, de 3 ans, et Nahar de 13 ans, ou de 30 ans, ou de 60 ans, c'est la même chose. Quand on commence à écrire, les enfants au début ne savent pas encore écrire des lettres. La première lettre qu'on peut écrire, c'est quoi? C'est un yud. Un yud, c'est la plus petite lettre, c'est la plus facile à écrire, un yud. Yud, c'est 10. Quand on dit Nahar Yichtevem, c'est-à-dire, la plus facile, la lettre la plus facile à écrire, c'est ça le chiffre. Et c'est le chiffre Yud. Quand on dit un Yud, ça veut dire 10. Donc, il y a 10 personnes qui ont survécu. Shmuel Amar, Isha, 9 ont survécu. Tenemor, Nishalbo, Ololot, il restait quelques grappes de raisin, Genokev Zait, comme ceux qui frappent sur un olivier, Shnaim, Shlosha Gargarim, 2, 3, graines d'olive, Berosh Amir, Arba Vachamisha, Bisifer, 4-5. Bisifer, donc 4-5, 9. 9 personnes. Qu'est-ce que ça nous change? Ce sont des allusions. 10 personnes ont survécu, 9 personnes ont survécu. Ça nous change quoi? Je ne sais pas. Rabbi Shua Melehi Vehamar, Arba Asar, 14 ont survécu. Chenemar Shlaim Shlosha, Arba Vachamisha, il faut 2 et 3, ça fait 5. Arba, 5 et 4, ça fait 9. Chamisha, donc ça fait 14. Rabbi Yochanan Amar, Chamisha. Il n'y a que 5 personnes ont survécu. Sanherif, Ushnei Banaf, ses 2 enfants, c'est marqué dans le fourrage, ses 2 enfants, c'est marqué dans le texte. Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar Adan. Nebuchadnezzar, c'était l'empereur de Babylonie, le prochain empereur de Babylonie. Lui, il était un jeune homme dans l'armée de Sennacherib, Al-Pipchat. Et Nebuzaradan, c'est le chef d'armée de Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar a conquis Yerushalayim, il y avait deux personnes clés dans l'armée babylonienne, le roi Nebuchadnezzar et Nebuzaradan, c'était son chef d'armée. Alors eux, ces deux personnes, ils étaient jeunes à l'époque de Sennacherib, étaient dans l'armée et eux, ils ont survécu. Nebuzaradan Gemara, c'est une Gemara, c'est-à-dire une tradition orale. Une tradition orale qui ne s'appuie sur aucun texte du Tanakh. Gemara, simplement tradition orale. C'est une tradition orale qui dit Nebuzaradan faisait partie. Nebuchadnezzar, d'où on sait que lui il était, d'Irtib Karilimake, Varave, Drevia, Dami le Bar Elohim. Et l'aspect du quatrième ressemble à un ange. De quoi on parle? On a déjà parlé avant, Hanani, Mishael et Azaria se sont fait jeter dans la fournaise par Nebuchadnezzar. Et après Nebuchadnezzar, il regardait, il y avait une petite fenêtre, il regardait qu'est-ce qui se passe dans ce four. Et il a vu quatre personnes se promener. Alors Nebuchadnezzar, il a demandé aux gens autour de lui, mais nous, on a jeté bien trois. Mais moi, je vois quatre personnes se promener dans le four. Et le quatrième ressemble à un ange. Et l'aspect du quatrième, Dami ressemble bar Elohim, à un ange. Il ressemble à un ange, ce quatrième. Et qui ça a été cet ange? C'était le Malach Gabriel. Malach Gabriel. Hachem, il a demandé au Malach Gabriel de descendre dans le four pour refroidir le four. Étant donné Gabriel, c'est l'ange de la chaleur, donc à Kadesh Baruch, il est dit au Malach Gabriel déjà à l'époque d'Abraham Avinu, il voulait refroidir, Kadesh Baruch n'a pas voulu. Abraham Avinu, Kadesh Baruch lui-même, il a refroidi le four. Il dit au Malach Gabriel, viendra le moment que je te demande à toi. Donc il a dit, Gabriel, toi tu es l'ange de la chaleur, et bien toi tu vas descendre pour refroidir, pour faire un double miracle. D'accord. Maintenant la question qui se pose, Nebuchadnezzar, il appelle le quatrième, il a un aspect d'un ange. Mais attends, mais d'où il a vu un ange? D'où il sait comment un ange il est? Il a vu déjà un ange pour dire lui ressemble un ange. Il a de chazier. Et si jamais Nebuchadnezzar n'avait pas vu un ange, comment il aurait pu savoir? C'est qu'il a vu un ange. À quel moment a vu un ange? Dans l'armée de Sennacherib. Quand Sennacherib est venu et le Malach il est venu frapper, donc les survivants, c'est-à-dire Sennacherib et Nebuchadnezzar, les deux, ils ont vu cet ange. Maintenant, Sennacherib et Shnei Banav. D'où on sait que Sennacherib et ses deux enfants ont survécu? Parce que le texte dit après, lui, il a quitté Sennacherib, il a quitté l'endroit de Yerushalayim avec honte, sans l'armée, tout seul, et il est parti en Turquie. Il est parti dans la montagne de Turquie, et là-bas, il avait une espèce de maison de culte d'Avodah Zarah. Cet Avodah Zarah, on l'appelait Nisroch. Nisroch. Vahi hu mishtachave bet Nisroch Elohav. Vahi hu lui, Sennacherib, mishtachave, il se prosternait bet Nisroch, dans la maison de Nisroch Elohav. Pourquoi s'appelle Nisroch? La Gemara, après, va expliquer. Nisroch, la racine du mot Nisroch, c'est Neser. Neser. Neser, ça veut dire une planche. Chez les Arabes, on appelle ça Nasr. Nasr. Alors, Bet Nisroch, la maison du dieu Nisroch, du dieu de la poutre, de la planche. Quelle planche? De la Teiva des Noirs. Noach, il a survécu la Teiva. Mais comme toujours, quand il y a un miracle qui se passe à Kelbourg, il fait un miracle au Tzadikim. Vient les Ovs des Avodah Zarah et ils essayent de trafiquer, pervertir pour leur Avodah Zarah. Ça, c'est la base même de ce qui est Avodah Zarah. Avodah Zarah, c'est de prendre des choses que Doucha pour pervertir pour leur truc. À Dieu, enfin un faux Dieu, etc. Donc la Teiva, en effet, ça fait un immense miracle qu'elle a résisté au Maboul. Elle a protégé Noach et sa famille et tous les animaux. Donc, quand Noach est arrivé sur Har Ararat, sur les montagnes d'Ararat, là-bas en Turquie, donc, Noach, il est sorti, la Teva est restée. Sont venues des personnes, je ne sais pas qui. Les gens sont venus, ils ont commencé à prendre des planches. Une planche a été prise et ils ont fabriqué après une maison d'Avodazara. Et cette planche était le dieu là-bas pour les peuples qui étaient dans cette région. Les Babyloniens, au nord de la Babylonie, Syrie, Turquie, toute cette région-là, une des idoles les plus conservées, c'était donc ce Beth Nisroch Eloha, Vayihu. Donc, Sanherifi est parti, Mishtachvi se prosterne Beth Nisroch Eloha, Vadar Melech, Vesar Etzer Banav. Ses deux enfants, un il s'appelait Adramelech et l'autre il s'appelait Sar Etzer, Banav, ses enfants, ils ont frappé leur père, ils ont tué leur père. Pourquoi ils ont tué leur père? Ça, le Gemara va nous expliquer après. C'est parce que lui voulait les tuer. Parce que Sanherif, il a dit, si je peux retourner dans mon pays sans que les gens me tuent, Sanherif, il avait une trouille terrible de retourner dans son pays. Parce que les gens ils vont dire, où est l'armée, monsieur le roi? Qu'est-ce que vous avez fait? On vous a donné 185 000 les soldats. Et c'était des gens importants aussi, 45 000. Ils sont où? Ils sont morts? Quoi? Vous avez perdu la bataille? Vous êtes un nul. Sanherif attendait qu'il va se faire déchirer là-bas. Alors, il a dit à son Dieu, écoute-moi, mon Dieu, il disait, si je reviens à ma maison et les gens ils vont pas me liquider, alors je vais faire un sacrifice pour mon Dieu. Quel sacrifice? Je vais faire comme Abraham Avinu. Abraham Avinu a sacrifié son fils Yitzhak. Moi, je vais sacrifier mes deux enfants pour toi, comme remerciement. Seulement, le problème, il est que les deux enfants, ils ont entendu ce vœu. Alors, donc, ils ont pris le devant. Ah, hein, papa, il veut nous massacrer. Eh bien, nous, à Balar, Gerashkon, Horgo, c'est eux qui l'ont liquidé d'abord. Ce qu'on va faire à l'autre, on le reçoit soi-même. C'est comme ça la vie. Amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu, il a dit, il m'a le mikra. Maintenant, jusqu'à maintenant, ça marche encore. À partir de maintenant, c'est archi-codé. Je vous ai averti, je ne sais pas pshat. Il m'a, Amar Rabbi Abahu, il m'a le mikra katouf. Si le verset n'avait pas dit ça, Yabsar le Omro, nous, on n'aurait pas pu parler, Bechlal, d'une telle histoire. C'est une histoire tellement bizarre et qu'elle a un sens tellement profond, on n'aurait pas pu dire des choses comme ça. Mais Rabbi Abahu, il sait de quoi il parle. Moi, je ne sais même pas de quoi il parle. Nirtiv, le texte dit, Bayomahu, ce jour, Yegala Hashem, Dieu va raser Betar Hashira avec une lame. Il va utiliser une lame de Ovri Nahar de Melech Hashur. Il va raser les cheveux et taroche la tête, mais ça raglaïm et les poils du pied, les gammes et tazakan tispé, et il va aussi détruire sa barbe. Qu'est-ce que ça veut dire? À Kadosh Baruch Hu, il va raser les cheveux, la barbe de Sanherif. Qu'est-ce que ça représente? Bien sûr, ça représente, c'est pas Kipshuto, on parle pas de la barbe, les cheveux, c'est pas ça le problème. C'est, il va raser quelque chose. Qu'est-ce que c'est les cheveux? Dans le Nazir, on trouve l'histoire des cheveux. Les Kohanim n'ont pas le droit d'avoir des longs cheveux. Il y a des sodotes, il y a des secrets. C'est l'homme, il a des poils, il a des cheveux, et il y a dans la Rouhaniyut aussi des grands secrets. Il y a dans le Zohar, on parle des cheveux, etc. La barbe, les cheveux, etc. Les péotes. Alors, la Gemara nous raconte comme ça. Atokut shebrichu ve'it ne'i legavre saba. Dieu kavachol. On ne peut pas le dire, mais si on aurait pu dire, c'est comme si Akadosh Baruch Hu serait présenté à Sanherif. Comme un homme. Comme si Akadosh Baruch Hu, il se présentait comme un coiffeur devant, c'est, bon, nous, on aurait dit Elia Navi, il a envoyé Elia Navi. Peut-être, c'est ça le fait. Il a envoyé Elia Navi, Sanherif, on peut dire comme ça. Amarlei. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Sanherif, qui azlat le gabemal remis rachumarav? Quand tu veux retourner maintenant dans ton pays, où tu vas rencontrer tous les rois, tous les députés, tous les membres d'Aïtin ou les Bnaï, ou eux qui apportaient leurs enfants, qui donnaient leur enfant comme soldat dans ton armée pour conquérir Yerushalayim. Le katletinu, et tu les as tous fait perdre, tu as perdu la bataille. Mayamar, comment tu vas te justifier? Ils vont tous te demander des nuits cheshbon. Qu'est-ce qu'il y a avec nos enfants?
Amar le hu, amar lei. Alors son frère il a répondu à Kadosh Baruch Hu Kaviyachol. Au gavre bao pach de namayativ. Je tremble. En effet, je ne sais pas quoi faire.
Je tremble devant ce que les gens ils vont me dire.
Amar lei, heichanavit. Alors son frère il va demander à Hashem. Ou représentant d'Hachem en ce malach, Echenavit, qu'est-ce qu'on peut faire? Amalei, il lui a répondu, Zilva Ushni Nafshach, change-toi, fais une opération, fais un changement de corps, comme il faisait Marchemam, les copains de Hitler, quand ils se sont sauvés après la guerre, pour aller au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, etc., tous les nazis. Et souvent, ils ont fait une opération, ils ont changé le nez, changé le front, etc., pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. C'est des trucs classiques. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il est dit, tu sais, c'est ça qu'il faut faire. Mishani Nafshech, il faut que tu changes ton visage. Bamaï Ishne, comment je peux changer? Opération, comme il y en a aujourd'hui, il n'y avait pas à l'époque. Amalezil Aitili Maspere. Amène-moi un ciseau. La gazière Anna, et je vais te couper les cheveux et la barbe, et plus personne ne va te reconnaître. Meiche Aïte, d'où tu veux que je t'amène? Amalei Ulahaubeite. Alors, c'est le représentant d'Hachem, je ne sais pas, ce malach, cet homme-là, qu'Hachem l'a envoyé, et dit rentre dans cette maison, et amène-moi. Dans cette maison-là, il y a un coiffeur qui habite, tu peux lui demander un ciseau. Azal, il est parti, Ashkechin hu, il a trouvé, Atu malache charet, vid moleke gavre. Alors, il y avait des anges qui se sont déguisés en hommes, avec tachne kashaita. Ils étaient en train de moudre kashaita des noyaux des dattes. Amarlei, alors, San Kherif, il a dit, Havoli mispere, vous pouvez me donner un ciseau. Amrolé, eux, ils ont répondu, Tron Chad Grib et Kashaïta, va moudre avec nous un kilo de graines de date. Venite lach, et après on va te donner le ciseau. Le Chad Grib et Kashaïta, donc il a écrasé avec eux un kilo de date. Via Havolé Masparte, on lui a donné le ciseau. Qu'est-ce que la Gemara veut nous raconter? On ne sait pas, c'est des secrets, mais peut-être pas sous le plus léger, le plus léger de tous les pshatim. La Gemara veut nous raconter que l'empereur du monde, il se prenait pour le bon Dieu, il se croyait pour l'homme le plus grand, il est obligé ici, pour sauver sa peau, il doit raser sa barbe et ses cheveux pour se faire pas reconnaître. Il cherche un ciseau. Pour avoir un ciseau, il est obligé de moudre, il est obligé d'écraser des noyaux de date, ça veut dire comme le dernier des esclaves. Il devrait, ça veut dire c'est une humiliation. Hachem, il a humilié. On dit aussi sur Haman, Mordechai, il a humilié Haman, il a dit, mais lui, c'est un coiffeur. Quand Haman, il a dit, pourquoi tu ne te prosternes pas devant moi? Les gens, ils ont dit à Mordechai, pourquoi tu ne te prosternes pas? Il a dit, mais qui c'est ce type-là? Ce n'est pas un premier ministre. C'est le petit coiffeur de l'armée, ce type-là. C'est un analphabète. Alors, ici, Sancher, il fait obligé de s'abaisser pour faire moudre des trucs, pour moudre d'un kilo de noyaux pour qu'on lui donne. Et ça, c'est ça. Ça existe beaucoup, des gens qui se prennent, des gens orgueilleux, et leur carrière, après, à Kadosh Baruch Hu les abaisse, et ils finissent très, très, très bas. Les gens qu'eux, ils ont méprisés, après, eux, ils sont après dans cette situation. Mais pourquoi, puis, ils avaient coupé les yeux? Bon, ça, encore, il y a des secrets ici. Ada Ata, jusqu'il est venu, donc, avec ses ciseaux, il recherche, c'est devenu la nuit. Amarley le dit, il a été nourri. Mais ça ne suffit pas le ciseau, il faut que tu m'amènes une bougie. Je ne peux pas me raser les cheveux si je n'ai pas une bougie. Azal, il est parti, va a été nourri, il a porté du feu. Bah, de te canaparley. Et quand il a soufflé dans cette bougie, Itlebeinure bedikne, la flamme a attrapé la barbe de Sanhérif. Azal, il est parti, Gaziel et Reiche, bedikne. Et après, il lui a rasé la tête et la barbe. Amrou, Aino dichtiv, on comprend le verset qui dit, Vegam et Azakan tispe. C'est marqué, il va raser la tête, Vegam Azakan tispe. Aussi, la barbe va disparaître. Il n'a même pas coupé la barbe, il a brûlé. Il a brûlé la barbe. Bon, Amrafap, il dit, Aino d'Amre Inche. Il y a un proverbe qui dit, Girirte la armai shapirlei. Itlelei nur bedikne velosavat hukaminei. Si tu brûles un petit peu un homme que tu le brûles un peu et ça lui plaît, alors brûle-lui la barbe en plus et il va rigoler et il va pas arrêter de rigoler. Je ne sais pas quel est le sens de ce proverbe, c'est-à-dire il y a des imbéciles. Il y a des imbéciles qui leur arrivent du mal et ça leur fait plaisir. Alors c'est bien de lui faire un peu plus. Comme ça, il va avoir encore plus de plaisir. Est-ce que c'est du masochisme? Qu'est-ce que la Gemara veut nous transmettre ici comme message? Je ne sais pas. Il y a un proverbe qui dit, quelqu'un qui veut se faire du mal, alors qu'il plus qu'il aura du mal, plus il sera content. Mais je ne sais pas quel est le... Je ne sais pas. Je ne vais pas commenter la Gemara, qu'est-ce que je ne sais pas. Alors la Gemara continue. Azal, il est parti. Ashkach Dapa, mitevut de noir. Il avait trouvé Dapa, une planche, mitevut de noir. De la Teiva de noir, il avait trouvé. Amar, il a dit, Haino elaha rabba, voici le grand Dieu, de Sheiz vele noach vitufna. Il a sauvé noach du Maboul. Amar lehu. Il a dit, I eizel hau gavra ou matzlach, si cet homme-là, donc ici on parle avant, ça c'est avant la guerre. Avant la guerre, il a dit, si moi je vais à Yerushalayim et je vais réussir de débattre Yerushalayim, alors, me karev lehu trein benohi, je vais sacrifier mes deux enfants. Alors je ne sais pas exactement. Si cette histoire de la planche était avant de faire la guerre, ou si cette planche qu'il a trouvée, c'est quand il est revenu, et si je vais réussir qu'on m'attrape, ou si je vais réussir dans la guerre, ou si je reviens vivant de cette histoire, je ne sais pas exactement à quel moment il avait trouvé la planche. Alors, si je réussirais, mais karavlou le train benoï kamach. Je vais sacrifier mes deux enfants devant toi. Qu'est-ce que c'est sacrifier les enfants? Qu'est-ce que c'est? On trouve ça plusieurs fois dans la Tanakh. Le roi de Moab aussi, le roi Chizkia Melech, en vérité, il avait un père. On avait déjà parlé de lui, il s'appelait Achaz. C'était un rachat. Et ce Achaz, il sacrifiait le frère, Chizkia Melech, il avait un frère. Et le roi, le père Achaz, il sacrifiait son fils pour Avodah Zarah. Le culte du Molech. Marqué déjà Chumash. Il existait un culte d'Avodah Zarah qu'un homme il sacrifiait ses enfants pour le Dieu. Et la Torah rentre à Yarmita. Il y a différents pshatim. Est-ce qu'il s'agit vraiment de tuer? Ou est-ce qu'il s'agit seulement de faire passer travers le feu? Où il s'agit un peu jeter dans le feu, traverser le feu. Il y a différents pshatim. En tout cas, il existait, et Achaz, le roi juif, il sacrifiait le frère de Chizkia et il voulait le faire sur Chizkia aussi. Seulement, ça ne marchait pas parce que la mère de Chizkia Melech, elle a mis un produit sur son corps pour que quand il les jette travers le feu, que le feu ne lui fait pas du mal. Et en tout cas, lui, il voulait sacrifier ses deux enfants dans le feu. Peut-être que toute son armée a été détruite par le feu. C'est aussi Mida Ketneged Mida. Et que sa barbe, maintenant, elle se fait brûler par la flamme comme on vient d'avant. C'est aussi Mida Ketneged Mida. Lui, il voulait sacrifier ses enfants. Normalement, le Ramban, il explique comme ça. On met deux feux, un à gauche, un à droite, et on jette les enfants à travers eux. Et des fois, ils sont brûlés, et des fois, ils arrivent vivants sans problème, et des fois, ils attrapent un peu une brûlure. Et ça, c'est ça le corban qu'on fait pour Hachem. Alors, lui, il voulait sacrifier ses deux enfants, et c'est pour ça, après, sa barbe aussi a brûlé. Ça doit aussi être quelque chose de mida keneged mida. Donc, Shamu Benohi, ses deux enfants, ils ont entendu, Vekatlouhu, et ils ont tué le père. Voici le sens de ce qui est marqué. Voici, lui était en train de quoi? De se prosterner. Bet Nisroch Elohav. Dans la maison Nisroch. Nisroch, c'est Neser, c'est la poutre. Vadar Melech, Vesar Etzer Banav, Yikou Bechar, ils l'ont frappé avec l'épée. Quoi? Maintenant, on va revenir un petit peu avant. On se rappelle que la Gemara, elle a fait une comparaison de trois guerres. Ils sont dans le même schéma. C'est quoi? La première guerre mondiale, Avraham Avinu contre les quatre rois. Les quatre rois contre Avraham Avinu. Et Avraham, il a gagné. La deuxième guerre, Sanhérev contre Chizkia. Le Malachi, il est venu à sauver Chizkia, détruit l'armée de Sanhérev. Et le troisième, c'est la guerre de Gog et Magog contre Mashiach. Et que Mashiach va détruire cette armée. Ce sont trois guerres historiques. Deux font partie du passé. Et une guerre fait partie du futur. Et maintenant, on avait cité ça, donc la Gemara va donner un petit peu plus de détails concernant ces guerres. Le texte dit « Vayichalek alehem laila hu va'avadav va'yakem » Où il est marqué ce verset? Dans la guerre d'Abraham Avinu. « Vayichalek alehem laila » Il a partagé sur eux la nuit où lui va'avadav et ses serviteurs, Abraham avec ses 318 serviteurs. Vayakem, il les a frappés. Alors, ça veut dire quoi? Il les a partagés. Pshat Pashut, que les quatre rois, ils se sont divisés. Chacun, il est parti à un autre endroit. Et donc, Abraham, avec les 318, pour poursuivre les assaillants, aussi ils se sont partagés pendant le nuit. Vayakhale kalem laïl huvadav. L'autre pshat, Vayakhale kalem laïla, ça veut dire que la nuit se partageait en deux, la première moitié de la nuit et la deuxième moitié de la nuit. Ça veut dire quoi? Qu'il a gardé la première moitié de la nuit pour Avraham Avinu, il a gagné la guerre, et la deuxième moitié de la nuit, c'était la sortie d'Égypte, ou aussi l'histoire de Sanhérif. Alors en tout cas, « Vaychalek alehem laïla » C'est partagé là. Il a où, lui, Avraham, Avadav et ses serviteurs, vers qui il les a frappés. Am Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit, Oto malach shenizdamino l'Avraham, l'ange qui s'est présenté à Avraham, avec lequel Avraham il a fait les miracles pour gagner la guerre. Quel est le nom de cet ange? Laïla Shmo. Il s'appelle Laïla. Comme ça, il s'appelle Nuit. L'ange, il s'appelle Nuit. Il y a une règle que toujours les anges ont toujours un nom selon la mission. Gabriel, c'est Melachon Gvura, Oriel, la lumière, etc. C'est selon la mission. Il y a une mission qui s'appelle Laïla, des choses qui se font pendant la nuit. La guerre contre les quatre rois a été gagnée pendant la nuit. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi la guerre devait être gagnée pendant la nuit et pas pendant la journée? La nuit, c'est l'obscurité. La guerre devait être gagnée pendant l'obscurité, pas pendant la journée. Pourquoi? Pour cacher le miracle. Parce que les gens ne devraient pas savoir qu'Abraham Avinu l'a gagné. Ils ne devaient pas trop savoir. Parce qu'Abraham Avinu, c'est le tzaddik, c'est le prophète. Ce n'est pas joli quand il massacre. La partie liquidation des ennemis, c'est une parenthèse qui ne doit pas être trop marquée. Je ne sais pas. En tout cas, ce malach, chez Nisdamen, qui se présentait à Abraham Avinu, Laïla Shmo, il s'appelle Nuit. Je n'ai pas comme le texte dit, « Laïla Amahore Gaver ». D'accord. Qui a dit ça, Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan était qui? Le fils de qui? Tu penses le fils de son père. Rabbi Yochanan était le fils de son père. Et son père avait quel métier? Il était forgeron. Rabbi Yochanan était le fils d'un forgeron, ça c'est connu. Rabbi Yitzhak Nafra Amar, et Rabbi Yitzhak le forgeron, il a dit, ça veut dire Rabbi Yochanan était le fils d'un forgeron. Il y avait un rave à l'époque de la Gemara qui s'appelait Rabbi Yitzhak Nafra, Rabbi Yitzhak le forgeron. Amar, lui, il a dit, « She asa imo maaselaila. » L'ange qui a aidé Avraham Avinu, il a fait « maaselaila », une intervention spécifique de nuit. Ça veut dire quoi? Tenez-moi le texte, il dit « Min shamayim nilchamu akochavim mimsilotam nilchamu imsisra. » La guerre que Déborah, elle a fait contre Yavin Melech Kenaan et contre Sisra, le chef d'armée Sisra. Après Déborah, elle a chanté, c'est extraordinaire ce qui s'est passé pendant cette guerre. Pendant cette guerre, Déborah, elle a dit « Min shamayim, du ciel, nilchamu, ils ont fait la guerre à Kochavim, les étoiles, la guerre des étoiles, mimsilotam, pendant qu'ils voyageaient dans leur trajectoire. Les étoiles dans leur trajectoire se sont mêlées dans la guerre, ils ont fait gagner la guerre à Déborah. » Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un pshat dans la Gemara est que certaines étoiles ont envahi un rayon de lumière, une lumière cosmique, et les armées de Sisra, les soldats, ils étaient habillés avec une armure, et l'armure était en métal. Et quand ce rayon des étoiles les a touchés, ça chauffait le métal. Et ils étaient grillés dans leur métal, dans leur armure. Ils ont dit quelle est la solution. Ils ont rentré dans un fleuve, Nahal Kishon, le fleuve de Kishon. Alors les soldats sont rentrés dans le fleuve de Kishon pour refroidir et le fleuve les a emportés. Nahal Kishon, Gerafam, il les a emportés. Donc il y avait ici une intervention d'une chaleur qui venait des étoiles. Et les étoiles, pendant la nuit, est-ce que ça existe, des rayons cosmiques? On peut peut-être aussi interpréter autrement, je ne sais pas, ça peut être des météores. Et des météores sont tombés des fois, ça existe, des étoiles qui explosent dans je ne sais pas où, je ne sais pas combien de kilomètres, il y a des étoiles qui explosent, des météores et des morceaux de débris tombent sur la Terre, ça existe. Ça existe dans le monde, on a déjà trouvé plusieurs météores, des petits, des grands, ça ne doit pas être très rigolo comme ça, de recevoir comme ça sur une maison un météore. Je pense qu'en Australie, il est tombé une fois un très grand, d'autres endroits aussi. C'est possible, là aussi, les étoiles, dans leur trajectoire, ils ont aidé, peut-être c'est ça le sens aussi. En tout cas, la Gemara, ce qu'elle nous dit, raconte ici, c'est qu'Avraham Avinu, il a gagné la guerre pendant la nuit. C'était une guerre des étoiles. Les étoiles se sont mêlées. Je ne sais pas comment, ils se sont mêlés dans cette histoire. Les étoiles, c'est toujours quelque chose que les scientifiques ils cherchent à comprendre, comme d'autres choses aussi. Ils cherchent à comprendre. Mais c'est quelque chose de fascinant. Ils parlent aujourd'hui des trous noirs et des matières qui montent de la matière. Et c'est plein de secrets de ce qui se passe. En tout cas, on a le sentiment, mais c'est loin de nous, ça ne influence pas. Il y a ici quelque chose, une influence. Alors, donc Laïla, Rabbi Yitzhak Nafra, il a dit, Shas, pourquoi le pasuk dit, Vaychalek alehem Laïla? La première explication de Rabbi Yochanan, il y a un ange qui s'appelle Laïla. Et lui, il a aidé Avraham Avinu. Et le deuxième, il dit, Laïla, ça fait allusion aux étoiles, que les étoiles se sont mêlées. Et grâce à ça, Avraham Avinu, il a gagné la guerre. Aujourd'hui aussi, ils appellent ça les Russes. Et les Américains, ils appellent la guerre des étoiles. Le président Reagan, à l'époque, il dit la guerre des étoiles. Ça veut dire, ça va être géré, je ne sais pas, ils vont gérer avec les... avec de l'atmosphère en haut, de là-bas, ça sera décidé. J'en sais rien. Amar Resh Lakish, Taba de Nafra mi de Bar Nafra. Mieux vont les paroles du forgeron que le fils du forgeron. Resh Lakish n'était pas content du pshat de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, l'ange, il s'appelle Laïla. Il dit, le fils du forgeron Rabbi Yochanan, non, c'est pas ça, il y a un meilleur pshat. Rabbi Yitzhak Nafra, le forgeron, il a dit un meilleur pshat. Yirdof Addan. Alors, le texte dit qu'Abraham Avinu a couru derrière les quatre rois, Ad Dan, jusqu'au territoire de Dan. C'est où le territoire de Dan? Alors, il y a deux parties de Dan. Il y a Dan a reçu deux territoires. Une partie, c'est à côté de Tel Aviv. Tel Aviv, Yafo, aujourd'hui encore, s'appelle Gush Dan dans le Tanakh. Quand Yeshua Benou, il a partagé la terre. Alors, Dan a reçu un endroit là où il y a Tel Aviv, Yafo, et Bnei Brak, tout ça. On appelle aujourd'hui Gush Dan le territoire de Dan, c'est juste. Et ils ont reçu tout au nord, au Liban. Une partie du Liban et de la Syrie, c'est le territoire de Dan. Et Vayirdof à Dan. Donc, il est parti d'Abraham Avinu à Dan. Et le texte, il dit, « Vayir de Femat Chouva, Asher Mismol, le Damasek, jusqu'à la ville Chouva, qui est Mismol, à gauche de Damasek, de Damas. » Donc, vers la région de Damas, Abraham Avinu est arrivé, et là-bas, il s'est arrêté, il n'a pas continué. Eux, ils se sont sauvés plus loin, les quatre rois. « Vayir dof ad Dan. » Pourquoi il n'a pas traversé Dan? Pourquoi il s'est arrêté, Abraham Avinu? Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il a dit, Evan Sheba, Oto Tzadik Adan, Evan Sheba, Oto Tzadik Adan, dès que ce Tzadik est arrivé à Dan, Tashash Kochu, il était découragé, il a perdu sa force. Pourquoi? Rab Nei Banav, il a vu ses petits enfants, Shatidin Lavod Avodezara Bedan. Et dont le futur, ils ont fait Avodah Zarah Bedan. Sheneemar, Vayasem et Echad Bebet El, Bet Echad Natan Bedan. Yoram Amenavot, la première Avodah Zarah officielle installée, il a installé dans le territoire de Dan. Echad Natan, dans le territoire de Dan. Il y a Bet El, c'est encore une autre chose, Bet El. Il a mis à Dan. Donc, quand Abraham a vu une arrivé à Dan, il a vu Baruch HaKodesh ici, les Juifs vont faire Avodah Zarah. Ça, ça le décourageait. Et dans ce cas-là, il a arrêté, il n'a pas continué à faire. Bon, à demain, Bézat Hachem.